Bonsoir le monde aujourd'hui, vous suivez VOA Afrique émettant depuis Washington DC au micro du studio 9 de La Voix de l'Amérique avec vous Eric Manirakiza. D'abord le sommaire. Le M23 assure vouloir libérer tout le Congo lors de son premier meeting ce jeudi à Goma. Kinshasa dénonce l'inaction de la communauté internationale. Le Conseil norvégien pour les réfugiés dresse un tableau sombre de la situation humanitaire dans l'est de la RDC et appelle à la fin du conflit.
C'est vraiment des besoins urgents qui comprennent la nourriture, les abris, l'accès à l'eau et bien sûr l'accès aux soins de santé.
Christelle Huret, porte-parole régionale de juin à Dakar, à suivre dans la partie magazine de cette édition. Au Soudan, l'armée mène une offensive à Khartoum sur plusieurs axes de la capitale. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, n'ira pas à une réunion du G20 en Afrique du Sud. Le président iranien n'est vouloir l'arme nucléaire. En réponse aux propos du président américain Donald Trump. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Le M23 a assuré vouloir libérer tout le Congo, déclaration de Corneille Nangaa lors de son premier meeting ce jeudi à Goma, ville conquise au prix de plusieurs morts, au moment où les forces congolaises sont acculées par l'avancée d'une groupe armée et ses alliés dans l'est de la RDC. La chef de la diplomatie congolaise dénonce ce qu'elle qualifie de l'inaction de la communauté internationale. Les précisions de Johnny Lyndon.
« On veut libérer tout le Congo », a lancé à Goma Corneille Nangaa, chef de la plateforme politico-militaire dont le M23 fait partie, devant des dizaines de milliers d'habitants convoqués dans un stade et dont la présence à ce premier meeting était obligatoire. Sur requête du M23, les commerces sont restés fermés jeudi. Corneille Nangaa a réclamé une minute de silence pour les victimes des combats avant d'assurer que le groupe armé allait chasser le président congolais Tshisekedi. Certains dans la foule arboraient des t-shirts portant l'inscription « Gouverner autrement le Nord Kivu ». La RDC a lancé mercredi un mandat d'arrêt international à l'encontre de Corneille Nangaa selon un document judiciaire communiqué à la presse. Selon des sources humanitaires et locales, les forces congolaises se préparent à une attaque sur Kavumu où se trouve l'aéroport provincial du Sud Kivu. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dénoncé mercredi à Bruxelles l'inaction de la communauté internationale après l'offensive du M23.
Le Malawi a ordonné à son armée de se préparer à se retirer de l'est de la RDC, a annoncé la présidence. Les troupes faisaient partie de la mission de la SADC déployée en 2003 pour aider Kinshasa à stabiliser cette région. La date du début du retrait des troupes n'a pas été précisée. La base militaire française d'Abidjan sera officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire le 20 février lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. Des parachutistes ivoiriens sont déjà entrés sur le camp de Port-Bouët en janvier et côtoient les militaires français. Le Sénégal négocie aussi le départ des troupes françaises d'ici fin 2025. L'armée soudanaise a avancé ce jeudi vers le centre de Khartoum sur plusieurs axes de la capitale. C'est ce qu'indique une source militaire précisant que ces hommes s'approchent du palais présidentiel contrôlé par les paramilitaires des FSR. Yacouba Ouédraogo.
Nos forces sont sur le point d'atteindre le centre de Khartoum et d'expulser la milice de Daglo, a déclaré une source militaire faisant référence au commandant des FSR, Mohamed Hamdan Daglo. Hier, l'armée a affirmé avoir nettoyé les quartiers d'Al-Remila et de la zone industrielle dans le centre de Khartoum, à 3 km du palais présidentiel. Certains témoins ont déclaré que l'avancée de l'armée était freinée par les tireurs embusqués des FSR postés sur des immeubles. Ces dernières semaines, l'armée a brisé un siège de près de 2 ans des FSR sur son quartier général dans la capitale et repoussé les paramilitaires aux abords du Khartoum Nord. Des combats ont éclaté la semaine dernière dans les états du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz Al-Ilou, affronte à la fois l'armée et les FSR. La coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Soudan, Clémentine Nkweta Salami, a déclaré ce jeudi que les combats auraient fait au moins 80 morts à Kadougli, capitale de l'État du Kordofan Sud. L'armée et le mouvement populaire de libération du Soudan Nord s'accusent mutuellement d'avoir lancé des attaques et ciblé des civils pour tenter de conquérir des territoires.
Au Nigeria, 36 personnes soupçonnées, notamment d'arnaques sentimentales et d'escroquerie aux célébrités, ont été arrêtées lors d'une vaste opération des forces de l'ordre. La majorité des individus arrêtés ont moins de 35 ans, selon Interpol, qui a apporté un soutien à ce coup de filet. Le Kenya a annoncé ce jeudi avoir déployé un nouveau contingent de 144 policiers pour une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, au lendemain d'un volte-face américain sur le gel de son financement. Les attaques des gangs, qui contrôlent déjà, selon l'ONU, 85% de la capitale, ne semblent pas avoir faibli.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a déclaré qu'il ne se rendrait pas en Afrique du Sud pour une réunion du G20 prévue dans 2 semaines, accusant ce pays de faire, selon lui, très mauvaise chose. Claire Morégibourg.
La réunion du G20 au niveau des ministres des Affaires étrangères est prévue à Johannesburg les 20 et 21 février. Marco Rubio a déclaré sur le réseau social X qu'il n'y participerait pas, citant notamment l'expropriation de propriétés privées, ce dont le gouvernement sud-africain se défend. « Mon travail consiste à promouvoir les intérêts nationaux de l'Amérique et non à gaspiller l'argent des contribuables ou à encourager l'anti-américanisme », a écrit le secrétaire d'État américain. Marco Rubio a déploré le fait que, selon lui, l'Afrique du Sud utilise le G20 pour promouvoir des programmes de diversité et d'inclusion et son agenda sur le changement climatique. Son homologue sud-africain Ronald Lamola a pris note du tweet de Marco Rubio et répété qu'il n'y avait pas de dépossession arbitraire de terres ou de propriétés privées en Afrique du Sud. « Notre présidence du G20 ne se limite pas au changement climatique, mais aussi au traitement équitable des nations du Sud » afin de garantir un système mondial égal pour tous, a-t-il ajouté.
L'Afrique du Sud ne se laissera pas intimider, a prévenu ce jeudi son président Cyril Ramaphosa lors de son discours annuel sur l'état de la nation, après de multiples attaques, selon lui, de l'administration de Donald Trump aux États-Unis cette semaine. Le président iranien a déclaré ce jeudi que son pays ne cherchait pas à se doter de l'armée nucléaire. C'est après que le président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran ne devait pas en disposer. Rosine Munezer.
Nous ne cherchons pas à nous doter d'armes nucléaires, a déclaré M. Pezeshkian lors d'une réunion avec des diplomates étrangers à Téhéran, ajoutant qu'il était facile de vérifier cette affirmation. Les États-Unis s'étaient retirés en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien, conclu 3 ans auparavant et qui offrait à Téhéran un allègement des sanctions en échange d'une limitation de ses ambitions nucléaires. Mercredi, Donald Trump a affirmé être en faveur d'un accord de paix tout en estimant que l'Iran ne pouvait pas avoir l'arme nucléaire au lendemain de sa déclaration en faveur d'une politique de pression maximale sur Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a jugé mercredi que cette politique dite de pression maximale sur Téhéran sera un nouvel échec, comme ce fut le cas, selon lui, lors du premier mandat du président américain. Au cours de la réunion de jeudi, M. Pezeshkian a fait référence à un décret religieux de longue date du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, interdisant les armes atomiques. Il a indiqué que l'Iran ne cherchait pas à se doter de telles armes, car massacrer des innocents n'est pas acceptable dans la doctrine de la République islamique d'Iran.
Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré ce jeudi que le soutien du gouvernement israélien au plan du président américain Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza affaiblit et détruit les négociations sur un accord de cessez-le-feu et incite à une reprise des combats. Le communiqué du Caire, médiateur de la trêve, fait référence aux déclarations publiées aujourd'hui par des membres du gouvernement israélien sans le nommer. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Au Sénégal, un programme de financement a été annoncé à destination des PME et PMI, visant entre autres à augmenter les crédits octroyés par les institutions financières. L'Agence de développement et d'encadrement des PME, appuyée par une vingtaine de banques locales, se sont engagées à débloquer 1 000 milliards de francs CFA. Ce programme de financement devrait atteindre 3 000 milliards de francs CFA d'ici 2028. Le ministre guinéen des Mines, Bouna Sila, a affirmé à l'agence Bloomberg que le projet Simandou devrait livrer 60 millions de tonnes au cours de sa première année d'exploitation en 2026. Le plus grand gisement de minerai de fer inexploité au monde devrait atteindre la production maximale l'année suivante à 120 millions de tonnes de minerai. La Mauritanie et le Maroc ont signé ce jeudi à Nouakchott un accord historique d'interconnexion électrique qui permet de relier l'infrastructure avancée du royaume chérifien au réseau en développement de son voisin. Cette initiative renforce la sécurité énergétique de la région tout en favorisant l'intégration économique entre les deux pays.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Mario Lemina rejoint Galatasaray.
Oui, le milieu de terrain gabonais s'est engagé avec Galatasaray en provenance de Wolverhampton. Annonce faite par le club turc, un contrat d'une saison et demie avec une saison supplémentaire en option a été signé avec le joueur selon les leaders du championnat de Turquie qui avait déjà accueilli Mario Lemina en prêt lors de la saison 2019-2020. Le montant du transfert s'élève à 2,5 millions d'euros, précise Galatasaray. L'international gabonais de 31 ans avait rejoint Wolverhampton en janvier 2023 en provenance de l'OGC Nice.
Ici en NBA, Wemby sauve les Spurs contre Atlanta.
Grâce à un lancer franc décisif en fin de match, Victor Wembanyama a offert la victoire aux San Antonio Spurs contre les Hawks d'Atlanta 126 à 125. Cleveland s'est imposé 118 à 115 face à Détroit grâce à un tir à 3 points au buzzer depuis le milieu de terrain signé Darius Garland. Avec 50 points de Chai Julius Alexander, Oklahoma City a assommé Phoenix 140 à 109. Autre performance remarquable, Anthony Edwards a marqué 49 points pour permettre à Minnesota de s'imposer 127 à 108 à domicile contre Chicago. Milwaukee a battu les Hornets à Charlotte 112-102.
Nous restons ici aux États-Unis pour parler de cet événement très attendu ce dimanche, Yacouba.
Oui, il s'agit du Super Bowl, entendez la finale de la NFL, le championnat de football américain. Les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles se préparent pour cette 59e finale prévue à la Nouvelle-Orléans. Les deux formations ont fait face aux médias au Superdome où va se dérouler le match, lançant ainsi le show médiatique. Michel Joseph.
Des pom-pom girls. Des trompettistes, un public surexcité, comme si on était déjà le jour. Plusieurs milliers de fans ont payé 20 dollars pour des billets dans les tribunes du Superdome pour voir les joueurs faire face à des questions de journalistes. Jalen Hurts, joueur des Philadelphia Eagles.
Je pense que le message principal est d'aller sur le terrain, de se concentrer et de se battre jusqu'au bout.
La franchise de Philadelphie, une des victimes des Chiefs il y a 2 ans en Arizona, vise un deuxième titre après sa victoire en 2018 face aux New England Patriots. Les Kansas City Chiefs, eux, sont devenus la première dynastie de la NFL depuis le déclin des Patriots à l'époque de Tom Brady. Patrick Mahomes, joueur des Kansas City Chiefs.
Ça sera un défi extrême pour nous et nous devons être prêts à chaque instant. Mais c'est ce que nous voulons, nous allons jouer contre les meilleurs dans le match le plus important.
Dimanche, Patrick Mahomes et les Chiefs vont tenter d'arracher un three-peat, un troisième titre consécutif sans précédent dans la NFL.
Merci Michel et vivement dimanche.
C'était les sports signés Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour vous présenter les dossiers du jour. La situation humanitaire dans l'est de la RDC s'est gravement détériorée, portant à 4,6 millions le nombre de déplacés. Les besoins en nourriture, abri, soins de santé et protection sont urgents. La guerre exacerbe la crise, impactant l'accès humanitaire et la sécurité des populations civiles qui sont prises en étau. Le Conseil norvégien pour les réfugiés appelle à la fin du conflit. Nous avons joint à Dakar la porte-parole régionale Christelle Huret.
Dans l'ensemble, en fait, les besoins sont bien sûr énormes. Hein. C'est vraiment des besoins urgents qui comprennent la nourriture, les abris, l'accès à l'eau et bien sûr l'accès aux soins de santé. Et en plus de ça, on a déjà beaucoup de témoignages sur les atrocités qui ont été commises, en fait, pendant les combats, avec des homicides, beaucoup de violences sexuelles. Donc, il y aura aussi énormément de besoins en termes de protection. On sait que les établissements de santé sont complètement submergés, encore par l'afflux de blessés, qu'il y a eu énormément de morts.
Vous, le Conseil norvégien se trouve sur le terrain. Il y a d'autres organisations humanitaires. Est-ce que vous êtes dépassé par la situation actuelle?
La semaine dernière, ce qui était extrêmement compliqué, c'est que personne ne pouvait sortir, ne pouvait bouger. On a eu une partie de l'équipe qui a été évacuée côté Rwanda, mais aussi une partie de l'équipe qui est restée à Goma. Et après, il y a des zones qui sont plus dans le nord Kivu, par exemple dans le territoire Lubero. Donc là, pour l'instant, l'aéroport n'est pas utilisable parce qu'il y a beaucoup de restes de guerre qui sont encore sur l'aéroport. Donc il y a vraiment besoin aussi de pouvoir déminer tout ça. Et puis, les besoins sont tellement énormes qu'il va falloir aussi réapprovisionner les sachant qu'on a des stocks qui sont déjà disponibles, notamment au niveau de NRC, mais qui ne permettent pas, voilà, pour l'instant, de répondre à l'ampleur des besoins.
Alors, il y a eu une trêve éphémère. On parle de la reprise des combats. Que faut-il présager si la guerre doit continuer?
Si la guerre doit continuer, les enjeux pour une organisation humanitaire comme NRC, c'est vraiment avant tout de s'assurer que l'accès humanitaire soit maintenu. C'est-à-dire que les organisations puissent avoir accès aux populations et que les populations aussi puissent avoir accès à l'aide humanitaire. Ce qui veut dire qu'en fonction de la situation, ça peut vouloir dire donc de dialoguer avec toutes les parties au conflit pour s'assurer que les organisations humanitaires ne seront pas ciblées parce qu'elles font leur travail d'aller aider les populations. Et donc ça va être un énorme enjeu. L'autre gros enjeu, ça va être aussi d'assurer la protection des civils. Comment s'assurer qu'il y ait une bonne distinction, qu'il n'y ait pas d'attaque, par exemple, sur les sites de déplacés, qu'il y ait une distinction très claire entre les parties prenantes au conflit, celles qui sont en train de faire la guerre, et tous les autres civils qui doivent être préservés. Si la crise continue, et même si elle ne continue pas, encore une fois, c'est les financements. Si la crise continue, c'est évident que ça veut dire toujours plus de besoins, toujours plus de mouvements de population. Et encore une fois, un gros enjeu, ne serait-ce que pour à comprendre, à savoir où sont ces populations et pouvoir avoir accès à ces populations, ne serait-ce que pour évaluer leurs besoins.
Évidemment, ce qu'il faut souhaiter, c'est la fin de la guerre, n'est-ce pas?
Sûr, évidemment. Et c'est la première demande d'organisation humanitaire de s'assurer à ce que la préoccupation des populations civiles qui sont prises en étau soit au cœur des débats en ce qui concerne la fin de la guerre.
Christelle Huret, porte-parole régionale du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
L'Office de l'industrie et de la commercialisation du tabac du Zimbabwe se montre confiant pour la récolte de tabac de cette année, prévoyant atteindre une production de 300 millions de kilogrammes sous réserve de conditions pluviométriques favorables. Le récit de Nani Tetelani.
Le président de l'Office de l'industrie et de la commercialisation du tabac du Zimbabwe, Patrick Devenish, se dit confiant malgré la sécheresse provoquée par El Niño l'année dernière. Monsieur Devenish a également souligné le potentiel d'utilisation de l'eau stockée disponible grâce aux investissements du gouvernement dans les barrages. Mais selon lui, la prochaine étape consiste à développer l'infrastructure d'irrigation afin d'utiliser cette eau stockée.
La culture a été semée tardivement. En fait, nous aimerions qu'elle soit plantée avant la fin du mois de décembre, mais elle a été plantée tardivement en attendant les pluies. Mais maintenant, avec les bonnes pluies que nous avons, il semble que nous pourrions atteindre les 300 millions de kilogrammes, bien que cela dépende maintenant de bonnes pluies en février et, espérons-le, en mars également.
Patrick Devenish revient également sur les efforts du gouvernement pour améliorer l'irrigation agricole. Il explique les défis à surmonter afin de fournir de l'eau aux petites exploitations agricoles.
Notre gouvernement et notre ministère construisent un grand nombre de barrages. Nous avons donc beaucoup d'eau stockée. Mais l'étape suivante consiste à assurer l'irrigation. Beaucoup de petites exploitations agricoles n'ont pas d'électricité. Ces systèmes d'irrigation devront donc être alimentés par l'énergie solaire ou d'autres énergies alternatives. Mais oui, il s'agit d'étendre notre infrastructure d'irrigation.
Bien que les conditions climatiques restent un facteur clé pour la récolte, les investissements dans les infrastructures hydrauliques et l'irrigation devrait aider à soutenir l'agriculture au Zimbabwe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, les démocrates du Congrès ont annoncé qu'ils utiliseraient les prochaines négociations sur le financement du gouvernement comme levier pour lutter contre les changements apportés par l'administration Trump aux agences du gouvernement fédéral, notamment l'Agence américaine pour le développement international USAID, principal fournisseur d'aide humanitaire à l'étranger. Catherine Gibson, la correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès, nous en dit plus. Le récit est relaté par Thierry Kaoré.
Qu'il s'agisse de la protection de la forêt amazonienne, de la prise en charge des réfugiés du Myanmar ou de l'hébergement des Ukrainiens fuyant la guerre contre la Russie, l'absence d'aide américaine se fait sentir dans le monde entier. Cette semaine, à Washington, des législateurs démocrates ont protesté devant le siège, désormais fermé, de la principale agence d'aide américaine et devant le Capitole. Cory Booker est un sénateur démocrate.
Nous combattrons leur violation de la séparation des pouvoirs. Nous combattrons leur violation de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Nous ne nous tairons pas. Nous nous lèverons. Nous nous exprimerons. Nous nous lèverons.
En début de semaine, l'Agence américaine pour le développement international, ou USAID, a été placée sous le contrôle du secrétaire d'État Marco Rubio, et presque tous ses employés ont été mis en congé à la suite d'un décret du président Donald Trump gelant l'aide étrangère américaine dans l'attente d'un examen. Les républicains du Congrès disent que Trump exerce une large autorité présidentielle pour réévaluer les agences gouvernementales. Il le fait par l'intermédiaire d'Elon Musk, un multimilliardaire qui l'a placé à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, dont l'objectif est de réduire les dépenses fédérales. John Thun est le leader de la majorité au Sénat.
Je ne pense pas qu'ils ferment une agence, mais je pense qu'ils ont le droit de revoir le financement et la façon dont ces décisions sont prises et quelles priorités sont financées. Je pense que c'est probablement le cas de toute administration. Lorsqu'ils arrivent, il y a beaucoup de programmes autorisés et financés par l'intermédiaire de cette agence et je pense que certains d'entre eux fonctionnent comme prévu. D'autres ne le sont pas.
Un analyste a déclaré à la VOA que la situation est sans précédent aux États-Unis. Claire Finkelstein est professeure de droit et de philosophie à l'Université de Pennsylvanie.
On peut soutenir que c'est une véritable violation de la séparation des pouvoirs pour le pouvoir exécutif que d'essayer de fermer complètement des agences que le Congrès a créées et pour lesquelles il a alloué des fonds Même si le pouvoir exécutif dispose d'une grande marge de manœuvre sur la manière d'utiliser ses fonds et sur la manière dont l'agence va fonctionner.
Le leader de la minorité sénatoriale, Chuck Schumer, a déclaré mardi qu'il soutenait les efforts visant à éliminer les fraudes et les abus, mais qu'il critiquait la rapidité et le secret du processus.
Quoi que fasse la doge, ce n'est pas de la démocratie. Nous savons ce qu'est la démocratie. C'est un processus ouvert, ce n'est pas secret.
Les démocrates se sont engagés à bloquer les votes sur les nominations du cabinet de M. Trump et à utiliser leur vote sur un nouveau projet de loi sur les dépenses publiques pour protester contre les changements à l'USAID.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Après la récente découverte d'un tunnel clandestin reliant les villes américaines d'El Paso et mexicaines de Juarez, les autorités mexicaines ont lancé une opération visant à localiser d'autres passages sous-train illégaux. Un reportage de César Contreras, récit signé d'Illidico.
Ce passage secret illégal relie la ville mexicaine de Ciudad Juarez à la ville américaine d'El Paso au Texas. Le tunnel, sous le fleuve Rio Grande, mesure un peu plus d'un mètre de large et près de 2 mètres de haut. Il est relié à un réseau d'égouts pluviaux et est équipé d'un éclairage et d'une ventilation. Écoutons le général José Lemus Cisneros, commandant de la garnison militaire de Ciudad Juarez.
Il est bordé de poutres en bois, comme vous pouvez le constater. Il y a des poutres, il y a du bois pour éviter les effondrements.
Les autorités pensent que cette voie souterraine était utilisée pour faire passer clandestinement des migrants et de la drogue du Mexique vers les États-Unis. Les agents de la patrouille frontalière américaine d'El Paso ont découvert le tunnel le 9 janvier lors de l'inspection d'un collecteur d'eau pluviale et ont commencé à le fermer du côté nord de la frontière une semaine plus tard. Les autorités mexicaines ont commencé à fermer le tunnel de leur côté et disent en chercher d'autres. À nouveau, le général José Lemus Cisneros, commandant de la garnison militaire de Ciudad Juarez.
Nous avons intensifié nos activités de recherche pour détecter d'autres tunnels s'il y en a. Notre présence sera maintenue en permanence.
Le gouvernement mexicain a renforcé les patrouilles au point stratégique de Ciudad Juarez afin d'empêcher les migrants de se retrouver piégés dans les tunnels ou d'être victimes de trafic humain lorsqu'ils tentent de franchir illégalement la frontière. Gilberto Loya est directeur de la sécurité publique de Chihuahua.
Notre objectif principal est de protéger les migrants et de veiller à ceux qui ne risquent pas leur vie en tentant d'entrer illégalement aux États-Unis. Cependant, suite à la découverte de ce tunnel, nous nous concentrons également sur la recherche d'autres tunnels dans la région.
Les enquêtes se poursuivent et les autorités mexicaines ont réitéré leur engagement à fermer les routes illégales le long de la frontière.
C'était donc le récit signé d'Ili et Dico. La Russie a salué ce jeudi la décision de la nouvelle administration américaine de fermer l'Agence américaine pour le développement international USAID, considérée par Moscou comme une machine à s'ingérer dans les affaires des États. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce jeudi la livraison à son pays de premiers avions de combat Mirage 2000 par la France et qui, selon lui, renforceront les capacités de l'Ukraine à faire face à l'invasion russe. Un sourire, nos quotidiens, mais il apporte beaucoup, il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Apprenons à le donner et à le recevoir, c'est une force magnifique qui adoucit la vie. Georges Léonard Sagnon vous transmet son sourire. Ainsi va le monde aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manelakiza à son micro, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnon. Un grand merci à la rédaction, à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com, sur nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Dans quelques instants, votre programme interactif à votre avis avec Claire Morijebourg. À la prochaine.